Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition matinale du 24 juin 2014, Ebola en Afrique de l'Ouest, une épidémie hors de contrôle selon MSF qui appelle à la mobilisation internationale.
Des milliers de personnes ont fui leur maison dans le nord du Liberia, infestées de chenilles qui détruisent les récoltes et contaminent l'eau.
La situation est alarmante. Nous avons informé le ministère de la Santé. Comme vous pouvez le voir, les chenilles envahissent les domiciles. Elles ont pollué les ruisseaux. Même notre clinique a été attaquée par les chenilles.
L'activité économique de Kano au Nigeria, fortement touchée par la psychose des attentats.
Par exemple, les états frontaliers, ceux qui viennent à Kano faire les achats, ils ne viennent plus parce qu'ils ont peur compte tenu de la situation du milieu.
De passage à Bagdad, le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé les dirigeants chiites de créer un gouvernement plus inclusif.
Un leader séparatiste pro-russe en Ukraine déclare que les rebelles vont observer un cessez-le-feu jusqu'au 27 juin.
Également la Coupe du Monde, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pineau, notre envoyé spécial au Brésil, ainsi que la musique de Roger Muntou.
Mais on commence par le journal.
Les États-Unis ont annoncé près de 51 millions de dollars en aide humanitaire supplémentaire pour la Centrafrique. Ceci porte la contribution totale des États-Unis à la crise à près de 118 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2014. Des détails avec Darina Naidoo.
Dans un communiqué publié hier soir, le Département d'État américain a annoncé l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de près de 51 millions de dollars aux personnes et pays affectés par les violences en Centrafrique, ce qui portera le total de l'aide humanitaire américaine pour l'année 2014 à 118 millions de dollars. Objectif de cette mesure, aider les plus de 50% de la population centrafricaine dans le besoin à cause de la crise. L'assistance supplémentaire servira entre autres à identifier les enfants abandonnés et à permettre leur réunification avec des membres de leur famille si possible. Également ciblées, les femmes victimes de violences sexuelles qui ont besoin de soins et de conseils. L'aide supplémentaire vise aussi à faciliter la distribution de vivres aux femmes enceintes et aux enfants. Plus de 35 millions de dollars dans le cadre de cette nouvelle enveloppe sont réservés aux pays voisins de la Centrafrique qui ont accueilli près de 140 000 réfugiés centrafricains, en particulier le Cameroun et le Tchad, les deux principaux pays d'accueil. Une assistance qui sera distribuée par le biais de l'ONU et des ONG humanitaires. Les États-Unis restent déterminés à tout faire pour atténuer les souffrances des Centrafricains et sauver des vies humaines, souligne le communiqué du Département d'État américain.
Suite à la mort dimanche à Bangui de la journaliste centrafricaine Elisabeth Blanche Olofio, Reporters sans frontières a appelé le gouvernement de transition à garantir la sécurité des journalistes et à mettre fin à l'impunité et de telles agressions. Le décès de Madame Olofio fait suite à la violente agression dont elle avait été victime le 8 janvier 2013 par des rebelles de Séléka qui avaient attaqué la radio Béoko de Bambari dans le centre du pays. Depuis, notre consoeur souffrait de graves séquelles physiques et mentales, d'abord donnée pour morte et découverte en brousse dans un état de trouble cérébral. Cette jeune dame a souffert dans l'indifférence totale des dirigeants politiques centrafricains et des responsables de la Séléka, s'insurge sur les réseaux sociaux Valérie Blandine Tanga du réseau des femmes croyantes médiatrices de la paix, appelant à ce que les responsables de sa mort soient traduits en justice. Dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF, la République centrafricaine a effectué la plus grande chute en un an pour se retrouver à la 109e position sur 180 pays.
Washington a exhorté hier l'Égypte à commuer les peines de trois journalistes de la chaîne Al Jazeera, condamnés à des sentences de 7 à 10 ans de prison. Timothée Donangmaï.
Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que Washington appelle le gouvernement égyptien à gracier ces personnes ou à commuer leurs peines pour qu'elles soient libérées immédiatement. Pour Josh Ernest, engagé des poursuites contre des journalistes parce qu'ils donnent des informations, c'est mépriser la règle la plus élémentaire de la liberté de la presse et porter un coup au processus démocratique en Égypte. En visite à Bagdad, le secrétaire d'État John Kerry a quant à lui parlé d'un verdict effrayant et draconien qui intervient au lendemain de sa rencontre au Caire avec le nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Un tribunal égyptien a condamné hier à des peines de 7 à 10 ans de prison trois journalistes d'Al Jazeera accusés de soutien aux islamistes. 11 autres accusés jugés par contumace, dont trois journalistes étrangers, ont été condamnés à 10 ans de prison chacun.
Au Sénégal, un procureur a requis 6 mois de prison ferme à l'encontre du rappeur engagé Malal Tala, alias Fou Malade. Il était jugé pour avoir dénoncé des pratiques de racket au sein de la police. Des détails avec Bagassi Koura.
Fou Malade, c'est son nom de scène. Il a comparu hier devant un tribunal des flagrants délits de Dakar. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme, ce qui, selon son avocat, est disproportionné. Maître Adama Gueye a réclamé une relaxe pure et simple de son client, d'autant plus que, selon lui, aucun agent de la force publique n'a été identifié et aucune plainte n'a été déposée. Le rappeur Malal Tala avait été arrêté le 19 juin pour avoir, pendant une cérémonie publique, dénoncé des pratiques de racket au sein de la police sénégalaise. Le lendemain, il a été inculpé d'outrage aux agents de la force publique et a été incarcéré. Malal Tala est connu pour son engagement pour la bonne gouvernance et pour l'amélioration des conditions carcérales. Il est l'un des responsables du mouvement Yanamar qui était en pointe du combat contre un troisième mandat du président Abdoulaye Wade en 2012.
En Guinée-Bissau, le nouveau président a été investi hier dans un stade de la capitale, Michel Joseph.
Devant quelques 15 000 personnes et 10 chefs d'État ouest-africains, José Mario Vaz a prêté serment, la main droite levée et les yeux rivés sur la constitution tenue par le président de la Cour suprême, Paulo Sanna. L'événement a été marqué par 21 coups de canon. Le tout nouveau président a prononcé un discours de 45 minutes, s'engageant au dialogue avec les partis politiques, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Son investiture a eu lieu 6 jours après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, dominée par la formation de M. Vaz, le PAIGC. La cérémonie d'hier a mis fin à une transition qui durait depuis le putsch du 12 avril 2012. La Guinée-Bissau, pays très pauvre, connaît une grande instabilité depuis des années avec de nombreux coups d'État militaires. Selon les Nations Unies, ce pays est devenu une plaque tournante du trafic international de la drogue.
Washington a salué hier la libération par Khartoum de la Soudanaise chrétienne qui avait été condamnée à mort pour apostasie. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Tout en se félicitant de la décision de relâcher Meriam Yahya Ibrahim Ishag, le département d'État a encore demandé à Khartoum d'abroger sa loi islamique qui interdit les conversions religieuses. L'un des avocats de cette jeune chrétienne a annoncé sa remise en liberté. Elle avait été condamnée à mort par pendaison le 15 mai pour apostasie. La jeune femme avait également été condamnée à 100 coups de fouet pour adultère, car selon la charia soudanaise, toute union entre une musulmane et un non-musulman est considérée comme un adultère. Née d'un père musulman, Meriam Yahya Ibrahim Ishag, 27 ans, est mariée à un chrétien. Elle vient d'accoucher en prison alors qu'elle était déjà mère d'un garçon de 20 mois. Son cas a soulevé un tollé dans le monde et parmi les organisations de défense des droits de l'homme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé lundi les dirigeants chiites de l'Irak de créer un gouvernement plus inclusif dans le contexte de l'insurrection sunnite qui a pris le contrôle de vastes territoires dans le nord et l'ouest de l'Irak. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu à Bagdad avec le premier ministre Nouri al-Maliki et également avec des leaders religieux chiites et sunnites. Monsieur Kerry a déclaré que les dirigeants irakiens lui ont assuré qu'il respecterait la date du 1er juillet pour commencer à former un nouveau gouvernement. Monsieur Kerry a par ailleurs dit que le président américain Barack Obama envisageait diverses options, mais que toute réponse militaire serait fondée sur les intérêts de la sécurité des États-Unis et non pas sur ceux d'une faction irakienne. Après son passage en Irak, M. Kerry doit se rendre à Bruxelles, notamment pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN.
Dans l'est de l'Ukraine, un leader séparatiste pro-russe luttant contre les troupes ukrainiennes dans l'est a déclaré que les rebelles vont observer un cessez-le-feu jusqu'au 27 juin. Alexander Borodaï a annoncé l'accord lundi à Donetsk, alors lors de pourparlers avec les émissaires russes et ukrainiens visant à mettre un terme à la crise qui frappe l'ancienne République soviétique. La trêve des rebelles intervient à la suite d'un cessez-le-feu ukrainien d'une semaine déclaré vendredi par le président Petro Porochenko.
Au Liban, un kamikaze présumé a fait exploser son véhicule près d'un café au sud de Beyrouth ce matin, blessant au moins 5 personnes. Selon un journaliste de l'Associated Press sur les lieux, l'explosion s'est produite peu après minuit, alors que les clients du café regardaient un match de la Coupe du Monde de football. C'est le deuxième attentat depuis la semaine dernière dans la région.
L'organisme international chargé de débarrasser la Syrie de ses stocks d'armes chimiques dit avoir reçu les derniers produits toxiques identifiés pour l'élimination. Le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Ahmed Ouzoumsou, a déclaré lundi que le navire transportant ces armes venait de quitter le port syrien de Latakié. Il a déclaré devant la presse à La Haye que cela pourrait prendre jusqu'à 4 mois pour détruire les 1300 tonnes de produits chimiques qui ont été saisis. Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. Au Nigeria, la ville de Kano est encore sous le choc après l'attentat d'hier contre une école de santé. Au moins 8 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans l'explosion d'une bombe. La police locale affirme avoir appréhendé un suspect. Timothée Donangmaï a joint Adamou Aboubakar Guarzo, notre correspondant à Kano.
Les gens sont condamnés parce que vraiment, à Kano, c'est la capitale économique du nord du Nigeria. Selon les gens, la paix était rétablie à Kano, ils sont contents. Donc, ils ne souhaiteront pas retourner en arrière comme les attentats empêchent les étrangers de visiter Kano. Quelqu'un que j'ai pu interviewer, il m'a souligné que s'il y a l'attentat à Kano, presque ça touche le Tchad, ça touche le Niger, ça touche le Cameroun, parce que souvent les commerçants nigériens, tchadiens, Cameroun viennent à Kano faire les achats, n'ont pas osé venir à Kano. Donc vraiment, ça détruit le marché de Kano. Donc selon lui, qui ne souhaiterait pas avoir des nouvelles comme ça.
Quel est l'impact de ce phénomène Boko Haram sur l'économie du Nord Nigeria aujourd'hui?
Oui, mais vous voyez déjà, l'économie du nord du Nigeria est détruite à cause des attentats, parce que vous voyez, dans le passé, il y a pas précisément Kano ou Maiduguri, c'est les deux centres commerciaux du nord du Nigeria. Par exemple, si vous prenez Maiduguri, il y a des Nigériens et des Tchadiens et des Camerounais qui viennent chaque semaine pour faire des achats, donc où ils amènent les leurs à vendre et prennent sur les nôtres et pour la destination de leur pays. Donc maintenant, ils ne peuvent plus venir parce qu'ils ont peur, parce que les attentats ne leur donnent pas le courage de visiter nos États qui sont dans l'insurgence. Le public pleure parce que, pour précisément, l'État comme Kano, où les gens vivent du commerce, donc les commerçants disent que vraiment ça ne va pas parce qu'il y a manque d'étrangers qui viennent à Kano. Même les Nigériens qui sont autochtones, par exemple les États frontaliers ou les sudistes qui viennent à Kano faire les achats, ils ne viennent plus parce qu'ils ont peur compte tenu de la situation du milieu.
C'était Adamou Aboubakar Guarzo, correspondant de La Voix de l'Amérique à Kano, au Nigeria. Pour Médecins sans frontières, la recrudescence de cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest est telle que l'on peut dire l'épidémie hors de contrôle. De nouveaux foyers sont signalés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, précise MSF et l'OMS. Le risque de propagation à d'autres zones est bien réel et il faut agir, estime l'ONG, appelant à une mobilisation face à cette fièvre hémorragique. Camille Grosdidier a joint le docteur Marc Poncin, coordonnateur de MSF en Guinée.
La situation est plus alarmante qu'on ne pensait et qu'il faut augmenter la mobilisation de tous les acteurs qui peuvent aider à juguler l'épidémie. Aujourd'hui, une partie de la population n'adhère pas aux mesures de contrôle. C'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a continuation de la propagation de l'épidémie. Une partie des gens ne croient pas à Ebola. Les malades se cachent. Les gens ne viennent pas se faire soigner au centre de traitement et la propagation continue. Aujourd'hui, c'est par la sensibilisation sensibilisation qu'on peut changer les choses, c'est la sensibilisation de la population, mais cette sensibilisation, elle doit être faite par toutes les couches de la société civile, par tous les leaders d'opinion, qu'ils soient politiques, religieux, administratifs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale au niveau de la société et de l'État pour convaincre les personnes récalcitrantes de venir se faire soigner. C'est à travers cette mobilisation qu'on peut y arriver. Un message qui est très important à porter en permanence, c'est qu'on peut guérir d'Ebola à condition de venir tôt dans les structures de santé. Et pour exemple, nous avons eu environ 60 patients qui sont sortis guéris de nos structures de santé. Donc on peut guérir de Ebola, mais il faut venir se faire soigner très tôt dans les structures de santé et ne pas se cacher.
Est-ce que vous avez le sentiment que la peur joue dans cette hésitation de certains à venir se faire soigner?
Absolument, la peur joue un très grand rôle. Ebola crée des réactions tout à fait irrationnelles et la peur joue un très grand rôle dans ces réactions irrationnelles. Il faut convaincre les gens par tous les moyens que Ebola est une maladie comme une autre, que le seul moyen de guérir de Ebola, c'est de venir dans les centres de traitement spécialisés. C'est la réponse au problème de Ebola. C'est une maladie dont on peut guérir à condition de venir se faire soigner. Il faut avoir confiance dans les structures de santé et les organisations qui répondent à la problématique de Ebola. C'est le seul moyen d'y arriver et qu'il faut que toutes les couches de la population se mobilisent afin d'endiguer cette épidémie qui est vraiment terrible et qui fait porter un très lourd tribut à la population ici.
C'était le docteur Marc Poncin, coordonnateur de Médecins sans frontières en Guinée.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Des milliers de personnes ont fui leur maison dans le nord du Libéria, infestée de chenilles. Des chenilles qui ont envahi habitations, écoles et détruit les récoltes et contaminé les sources d'eau. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que ces attaques sont de plus en plus fréquentes au Libéria et exhorte le gouvernement à mettre en place un système d'alerte pour éviter d'atteindre de tels niveaux catastrophiques. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Au moins 25 villes et villages des régions forestières des comtés de Lofa et de Gbarpolu sont affectés. Les habitants fuient en masse depuis le début du mois de juin pour échapper à cette situation. Marie Tolbert habite le comté de Gbarpolu.
Nous avons peur. Vous voyez ici, les chenilles sont partout et il n'y a nulle part où dormir. Je pars avec mes enfants dans une autre communauté.
Jeremy Ato, infirmier dans l'un des villages touchés, affirme que les chenilles constituent un grave problème de santé publique.
The situation is alarming. We have informed the Ministry of Health.
La situation est alarmante. Nous avons informé le ministère de la Santé. Comme vous pouvez le voir, les chenilles envahissent les domiciles. Elles ont pollué les ruisseaux. Même notre clinique a été attaquée par les chenilles.
Les précédentes attaques ont été maîtrisées grâce à la pulvérisation de pesticides, mais les experts estiment qu'il existe de meilleures méthodes. Winfried Hammond est entomologiste principal à la FAO. Il a contribué aux efforts de confinement lors des précédentes invasions.
The biggest concern is the fact that this is becoming...
La plus grande préoccupation est que cela devienne régulier. Il est temps que nous envisagions sérieusement de mettre en place des systèmes d'alerte précoces et voir comment éviter que ce problème ne prenne une envergure nationale. Pour empêcher ce que nous avons vu, il est nécessaire d'avoir un bon système de surveillance pour étouffer le problème dans l'œuf. On évitera ainsi d'arriver à ce stade où il faut pulvériser des fortes doses de pesticides.
Les autorités libériennes, après des semaines de surveillance de la situation, disent avoir commencé le traitement aux pesticides. 5 des zones touchées ont été pulvérisées et l'intention du gouvernement est de continuer l'opération tout au long de cette semaine.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. On retrouve tout de suite le journal de la Coupe du Monde, présenté depuis Brasilia par Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de La Voix de l'Amérique au Brésil.
« Bonjour à tous, nouveau numéro du journal de la Coupe du Monde au Brésil. Nuit de liesse à Brasilia après la qualification hier soir pour les huitièmes de finale de la Seleção face au Cameroun. Le Brésil termine premier du groupe A après une victoire logique, 4 buts à 1. Neymar, auteur d'un doublé, a estimé que c'était le meilleur match de son équipe. Le but camerounais lui a été inscrit par Matip. Les Camerounais repartent donc à Yaoundé, les valises pleines. 9 buts encaissés en 3 matchs et 3 défaites, un seul but marqué. Mais hier soir, les supporters des Lions Indomptables à Brasilia ont apprécié le comportement de leur équipe.
J'ai pensé que ce match était vraiment bien dans l'état d'esprit des Camerounais au début. Il y a eu une bonne conservation du ballon, mais malheureusement, Neymar a fait 2 fois la différence.
Je crois que c'était un très beau match et que l'arbitrage aussi a été bien. Clair, je crois que le meilleur a gagné. Le Brésil s'est avéré très, très, très vif sur les balles, très rapide et très technique. En tout cas, meilleure prestation par rapport à mon équipe, le Cameroun. Tu savais aussi que nous pêchons avec notre meneur de jeu, notre capitaine Samuel Eto'o, qui est malade et qui ne pouvait donc pas jouer les 2 matchs. Ça fait que l'équipe est démembrée. On a essayé en tout cas, mais on a fait ce qu'on a pu. Le Cameroun est éliminé. Je crois que ce sera bon, ce sera la prochaine fois.
Voilà pour ces témoignages des fans camerounais interrogés à la sortie du stade Mané Garrincha de Brasilia.
Le groupe A, somos nós brasileiros os anfitriões, enfrentando de cara a Croácia, o México e Camarões.
La Voix de l'Amérique, à l'heure brésilienne, c'est le Mexique qui accompagnera le Brésil en 8e de finale. Les Mexicains l'ont en effet emporté 3 buts à 1 face à la Croatie. Nous aurons donc un duel sud-américain puisque le Chili a été battu 2-0 par les Pays-Bas dans le groupe B. Voici donc l'affiche des 8e de finale, Brésil-Chili et Pays-Bas-Mexique. Pour l'honneur, je vous signale que l'Espagne, championne du monde en titre, est déjà éliminée. A battu l'Australie 3-0.
Le groupe C, na verdade, é o mais equilibrado pra mim. Tem Colômbia, tem a Grécia, tem Japão e a Costa do Marfim.
Et ce soir, place au dernier match des groupes C et D. La Côte d'Ivoire a son destin entre les mains puisqu'il suffit d'une victoire aux coéquipiers de Yaya Touré pour se qualifier. Sur ce match, écoutons l'ancien buteur des éléphants et de l'ASEC Mimosa, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi.
La Côte d'Ivoire doit apprendre à jouer son propre jeu. Sans complexe pour pouvoir avoir gain de cause. Et puis je pense que on doit gagner plus en humilité aussi, beaucoup en humilité pour pouvoir avancer. Je crois que déjà le fait de se mettre dans la tête qu'ils font partie des meilleures équipes d'Afrique, déjà je crois que ça gonfle un peu la tête, mais je crois que déjà ils sont plus à la tête sur les épaules et aborder le match avec leur qualité, pas en fonction du jeu de l'adversaire. Le classement, il a été bon jusqu'à présent. Pour moi, Didier, c'est un joker de luxe. Qu'il continue, parce que je vois que les jeunes ont pour habitude de fatiguer la défense en première mi-temps et Didier rentre après pour faire la différence. Il apporte son expérience et sa fraîcheur de rencontre. Je crois que déjà, c'est déjà bon. Pour moi, Wilfried Bonny, il fait ce qu'il a à faire en première mi-temps et Didier vient terminer ce qu'il a commencé.
C'était l'ancien buteur, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. A noter aussi que la prime qualificative des éléphants pour les huitièmes de finale, initialement fixée à 16 millions de francs CFA pour chaque joueur, a été doublée. Elle est désormais de 32 millions de francs CFA selon une source proche de la fédération. Enfin, la Colombie première de ce groupe C affrontera le Japon. Et je vous signale que l'étonnante équipe du Costa Rica dans le groupe D, elle est déjà qualifiée, elle affrontera l'Angleterre, déjà éliminée. Pour une place en huitième de finale, l'Italie et l'Uruguay se départageront sur le terrain. Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Au classement des buteurs en ce mardi matin, on retrouve en tête le Brésilien Neymar avec 4 buts devant le Français Benzema, l'Allemand Müller, les Néerlandais Robben et Van Persie et l'Équatorien Valencia. Tous ont inscrit 3 buts. Voici à présent le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Gouet qui revient sur le réveil des équipes africaines.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Alors que l'Europe poursuit son chemin de croix avec le nul négatif du Portugal contre les États-Unis et la chute risquée de la Russie face à la Belgique, l'Afrique se prend à rêver pour cette dernière journée de la phase de poule à un passage en force inédit du continent au second tour. Face à des équipes européennes visiblement à leur portée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Algérie ont leur destin en main. Là où le Ghana doit non seulement dominer un Portugal en quête de rachat, mais également compter sur une franche défaite des États-Unis contre l'Allemagne. Une mission très difficile. Que les Africains n'aillent surtout pas au combat la fleur au fusil. La Grèce et la Russie, leurs adversaires directs, savent que même une courte victoire leur ouvrirait les portes du paradis, tandis que l'Iran peut reprendre à son compte la fable du lièvre et de la tortue au détriment du Nigeria opposé à l'Argentine. Alors prudence et concentration. Le bonheur de voir enfin trois équipes africaines franchir le premier tour est à la portée de main. Mais le malheur de les voir toutes éliminées aussi. Croisons les doigts. À demain.
Pour terminer, une nouvelle de foot qui n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Sachez que Tchanile Tchakala a été nommé nouveau sélectionneur du Togo. Tchanile Tchakala succède au Français Didier Six, dont le contrat de 2 ans a pris fin en janvier. Tchakala Tchanile, 46 ans, était l'adjoint de Six. Il a pour mission de qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera évidemment au Maroc l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, préparé par Bagassi Koura et Nicolas Pinault. Nathalie et tous les fidèles de La Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du Studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. À présent, la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Ce week-end, le Portugal s'est sauvé d'une élimination immédiate de la Coupe du Monde de football en arrachant le match nul 2-2 contre les États-Unis sur un but marqué sur la toute dernière action du temps additionnel. Ici aux États-Unis, certains Américains se sont réjouis du résultat final et ils ont même fait la fête, Nathalie. Party in the USA, Miley Cyrus.
I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous.
Alors, est-ce que nous pouvons conclure que les États-Unis se sont donné toutes les chances de réussir contre le Portugal ce week-end, Roger ?
Exact, Nathalie. Les derniers matchs opposeront l'Allemagne aux États-Unis et le Ghana au Portugal, sachant qu'un nul les qualifierait automatiquement. Les Allemands et les Américains pourraient être tentés de s'arranger, d'autant que le sélectionneur américain est allemand. C'est en tout cas ce que craignent Ghanéens et Portugais. Mais entre-temps, les fans américains sont très contents de leur équipe et ils célèbrent ce matin avec Miley Cyrus.
Party in the USA, Miley Cyrus. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie. Nos salutations vont à Madame Dobena à Lomé, au Togo.
Vous retrouverez donc Roger Muntu dans le RM Show à 20h, temps universel.
Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letter. I guess I never got the memo. Tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ dropped my favorite tune. And the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah.
Voilà, c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Très bonne journée à tous. À très bientôt.
Pour les dernières nouvelles en Afrique,
aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.